Bonjour et bienvenue à l'émission Le quotidien des quotidiens, édition du lundi 7 mai 2018. Hélène Denis avec vous. Bonjour Jean-Sébastien.
Bon début de semaine, Hélène.
Est-ce que vous vous êtes fait bronzer en fin de semaine?
Ce n'était pas l'activité principale, mais c'est peut-être un effet secondaire du désherbage qui a eu lieu en fin de semaine.
Ah oui, parce que finalement, on a eu un très, très beau week-end, puis on avait juste le goût d'être dehors. Alors, vous en avez bien profité, et moi aussi pas mal quand même. Alors là-dessus, éphémérite du 7 mai, est-ce qu'il y a des journées internationales de quelque chose?
Rien qui ressort, mais non. En fait, d'événements marquants, quand même une petite cagnotte
bon,
d'événements marquants.
Bon, alors on vous écoute dans votre cagnotte.
7 mai 1429, Jeanne d'Arc achève la prise d'Orléans. 1824, Ludwig Beethoven dirige la création de la 9e symphonie. 1865, le Nouveau-Brunswick refuse la Confédération. 7 mai 1928, en Grande-Bretagne, l'âge du droit de vote, pour les femmes est ramené de 30 à 21 ans. 1939, l'Allemagne hitlérienne et l'Italie fasciste créent une alliance baptisée l'Axe Rome-Berlin. 1945, donc on vient de parler de ce début de la Seconde Guerre mondiale, et 7 mai 1945, l'Allemagne signe la reddition sans condition. 1952, le concept du circuit intégré fait son apparition, donc cette base de l'informatique moderne. En 1965, dans un motel de Floride, aux petites heures de la nuit, Keith Richards des Rolling Stones se réveille avec une idée, prend une enregistreuse et joue
oh yeah!
Les premières notes de Satisfaction. Donc il enregistre ça et se rendort aussitôt.
Très drôle comme anecdote.
La petite anecdote est qu'il a un enregistrement de 30 secondes et 45 minutes par la suite de ronflement de Keith Richards.
C'est toujours une chanson extraordinairement bonne et efficace.
1968, Reginald Dwight décide de changer son nom pour Elton John. 7 mai 1975, le satellite canadien Anik 3 est lancé de Cap Canaveral. 1976, encore un 7 mai, la voiture Honda Accord fait son entrée sur le marché, une des rares voitures quand même qui a une très longue durée de vie, donc depuis 1976. 7 mai 1989, à Montréal, le Centre canadien d'architecture est inauguré. En 1994, le tableau Le Cri, le célèbre tableau d'Edvard Munch, est retrouvé intact après avoir été égaré par la Galerie nationale de Norvège en février, donc il a manqué à l'appel pendant un peu plus de 3 mois. 1999, au Chic Resto Pop de Montréal, le ministre fédéral Stéphane Dion est entarté par 2 agresseurs, c'était un 7 mai.
Je ne sais pas s'il va fêter ça aujourd'hui avec un gâteau, avec du crémage par-dessus, je pense pas.
Et même jour, en 1999, mais sur une note un peu plus sérieuse, se trompant d'immeuble, l'aviation de l'OTAN bombarde l'ambassade de la Chine à Belgrade. En 2007, le gouvernement Charest renonce à vendre pour le développement immobilier des terrains du parc du Mont Harford. Et en 2009, le compositeur Luc Plamondon reçoit la médaille d'honneur de l'Assemblée nationale pour souligner les 30 ans de l'opéra rock Starmania. Le 7 mai 1833, le compositeur allemand Johannes Brahms naît. Et en 1840, le compositeur russe Peter Ilitch Tchaïkovski apparaît. Décès en 1825, on reste dans le domaine des compositeurs, le compositeur italien Antonio Salieri disparaît en 1825. Et finalement, le 7 mai en l'an 399 avant Jésus-Christ, décès du philosophe grec Socrate, condamné à boire du ciguë après avoir été accusé d'impiété envers les dieux et corruption de la jeunesse.
Eh bien, toute une cagnotte en
quand
ce
même.
7 mai, merci. À la une de la presse, une exclusivité, ça nous coûte de l'argent pour travailler. L'hiver est maintenant chose du passé, mais la colère gronde toujours chez les entrepreneurs affectés au déménagement, au déneigement, dis-je bien, des autoroutes. Estimant travailler à perte, plusieurs d'entre eux n'entendent pas renouveler leur contrat avec Québec. L'Amérique sous Trump contrôle des armes à feu, le Vermont ébranlé dans ses convictions. Chronique d'Yves Boisvert intitulée « La langue de marchand ». Entretien avec Brenda Lukey, nouvelle commissaire de la GRC, tolérance zéro pour le harcèlement. Et une semaine à l'école des humoristes. Se plaignant de travailler à perte, plusieurs entrepreneurs qui déneigent des autoroutes pour le compte du gouvernement provincial ne renouvelleront pas leur contrat pour l'hiver prochain et dénoncent la crise qui secoue le secteur du déneigement, qu'ils attribuent à l'attitude rigide du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'électrification des transports. Le marché du déneigement au Québec est grandement malade, déplore David Wessel, ancien ministre libéral provincial, et président d'Uniroc qui a décidé de ne pas renouveler les deux contrats de déneigement qu'il avait obtenus du ministère des Transports. Dans l'ensemble du Québec, 42 contrats de déneigement réalisés par des entrepreneurs privés ne seront pas reconduits par leurs titulaires sur un total de 393, selon l'Association des propriétaires de machinerie lourde du Québec, qui a sondé ses membres à ce sujet. Le président de l'organisme, Jean-Yves Gauthier, ne peut cependant pas dire à quel point les non-renouvellements ont augmenté cette année. Au-delà de la météo qui influence évidemment leur travail, les déneigeurs dénoncent des contrats trop rigides appliqués sans aucune souplesse et sans égard aux conditions particulières. Même s'il ne fournit pas de données précises, le ministère semble conscient du mécontentement des déneigeurs, puisqu'il a organisé il y a un mois un forum sur l'avenir du Québec, du déneigement, plutôt, à la demande des représentants de l'industrie, notamment de l'APMLQ. Alors, je vous rappelle ce que signifie cet acronyme, l'Association des propriétaires de machinerie lourde du Québec. Les doléances des déneigeurs. Les contractuels doivent acheter leur abrasif du ministère des Transports à un prix fixé par ce dernier. La facture représente entre 30 et 50 % de la valeur totale d'un contrat. Mais les conditions climatiques des derniers hivers obligent les déneigeurs à en épandre de plus en plus, ce qui leur coûte plus cher. Contrat contraignant. En cas de mésentente sur l'interprétation d'une clause d'un contrat, le ministère tranche en sa propre faveur, sans possibilité de discussion, dénoncent les déneigeurs. Pénurie de main-d'œuvre pour retenir et attirer les employés qualifiés, les entrepreneurs doivent augmenter les salaires et améliorer les conditions de travail, ce qui leur coûte plus cher. Le ministère des Transports fait face aux mêmes difficultés dans ses tentatives d'embaucher des déneigeurs. Et finalement, essence et taux de change. La hausse du prix de l'essence pèse lourd sur le budget des entrepreneurs, dont les contrats ont été conclus plusieurs mois à l'avance. Ils sont aussi désavantagés par la baisse du dollar canadien, puisqu'ils achètent généralement leurs équipements en dollars américains. Dans la mise à jour dans la presse, Julie Boulet ne sera pas candidate aux prochaines élections. Après plusieurs jours de rumeurs sur son avenir, la ministre annoncera ce matin à 11 h son retrait de la vie politique. Et toujours dans la mise à jour, Québec solidaire mise sur une candidature peu connue du public pour conserver la circonscription de Mercier à Montréal, laissée vacante par le départ du député Amir Kadir. Ruba Ghazal, une militante de longue date de la formation politique de gauche, annoncera lundi matin qu'elle briguera l'investiture dans Mercier. Bien qu'elle soit toujours restée loin des projecteurs, Mme Ghazal, âgée de 40 ans, est liée à Québec solidaire depuis la fondation du parti politique. Cette défenseure de la laïcité ouverte avait participé aux négociations ayant mené à la création de la formation politique au milieu des années 2000 et avait témoigné aux côtés de Françoise David à la commission Bouchard-Taylor en 2007. Tolérance zéro pour le harcèlement, la nouvelle commissaire de la Gendarmerie royale du Canada, GRC, le dit d'entrée de jeu, elle n'aura aucune tolérance envers le harcèlement sexuel et l'intimidation au sein du corps policier fédéral. En entrevue à la presse, Brenda Lukey se dit aussi convaincue que ses agents seront prêts pour la législation imminente du cannabis. Et elle s'engage à rendre la GRC plus transparente envers les médias et les citoyens après des années difficiles où sa réputation a été mise à rude épreuve. Dans la lettre de mandat de la nouvelle commissaire, qui sera rendue publique aujourd'hui, le ministre de la Sécurité publique, Ralph Goodale, détaille les nombreux chantiers qui l'attendent. Il souligne que Brenda Lukey devra appuyer l'organisation dans une période de transformation visant à moderniser et réformer sa culture et aussi en faire un lieu de travail exempt de harcèlement et de violence. Madame Lukey a été sélectionnée par un comité indépendant qui a ensuite formulé des recommandations au ministre Goodale. Je veux que notre organisation soit plus agile, plus capable, plus inclusive, plus respectueuse et plus tolérante, a dit Brenda Lukey, commissaire de la GRC. Inondation au Nouveau-Brunswick, les autorités affirment que les niveaux de l'eau dans le sud de la province dépassent maintenant les seuils historiques observés en 1973 alors que le niveau du fleuve Saint-Jean continue de monter. L'Organisation des mesures d'urgence prévient que la crue n'est pas encore arrivée dans le sud de la province et explique que le niveau de l'eau augmente lentement mais de manière constante. Les régions du nord du Nouveau-Brunswick sont également surveillées de près, notamment à Edmundston. Le niveau de la rivière Madawaska augmente en raison de l'accroissement du débit d'eau au barrage Témiscouata, au Québec, et en raison des niveaux élevés du fleuve Saint-Jean. Jusqu'à présent, 975 personnes ont évacué leur résidence à travers la province et se sont inscrites auprès de la Croix-Rouge. La Sûreté du Québec a délivré plus de 240 constats d'infraction lors d'une opération tenue samedi à Notre-Dame-du-Mont-Carmel en Mauricie, où se tenait un rassemblement de motards criminels. Quelques 370 motards affiliés aux Hells Angels ou à des groupes sympathisants ont été interceptés. La plupart des infractions concernaient des motocyclettes dont l'équipement était non conforme ou des excès de vitesse. Un véhicule a par ailleurs été saisi en vertu du Code de la sécurité routière. Aucune arrestation n'a été effectuée. Les motards tenaient leur rassemblement annuel à l'auberge de Mont-Carmel. Des barrages policiers avaient été érigés, notamment sur la route 157. Un cinéaste sud-africain a été tué par une girafe qu'il filmait dans une réserve à l'extérieur de Johannesburg, a annoncé hier le propriétaire du parc animalier. La girafe a tué Carlos Carvalho en le frappant à la tête dans le parc Glen Africk Country Lodge, situé dans la province Northwest. Carvalho, 47 ans, père de deux enfants, aurait été tué au moment où il réalisait de près des images en gros plan de la girafe. Et pour terminer, les fameuses chambres cachées à proximité ou à l'intérieur de la tombe de Toutankhamon n'existent pas, annoncé hier le ministère égyptien des Antiquités en s'appuyant sur une recherche géophysique de haut niveau. Des études et analyses utilisant un radar à pénétration de sol et menées par l'équipe scientifique italienne dirigée par Francesco Porcelli de l'Université polytechnique de Turin ont fourni des preuves concluantes sur l'inexistence de ces chambres, précise le ministère dans un communiqué. L'égyptologue britannique Nicholas Reeves avait avancé la théorie selon laquelle la momie de Néfertiti serait cachée dans une chambre secrète dans la tombe de Toutankhamon dans la vallée des rois près de Louxor. La momie de Néfertiti, la reine d'Égypte à la beauté légendaire, épouse d'Akhenaton, née il y a près de 3400 ans, n'a jamais été retrouvée de manière certaine, laissant cours à diverses spéculations et controverses. Tu regardes.
La chanteuse Clara Luciani et la pièce La Grenade tirée de son album Sainte Victoire.
À la une du Devoir de ce 7 mai, attaque contre le plastique. Des dizaines de consommateurs montréalais ont accepté d'ouvrir leur sac d'épicerie dimanche après-midi pour démontrer l'ampleur du suremballage des aliments à l'occasion de la première, entre guillemets, attaque contre le plastique dans la métropole. Restauration de sites miniers, Québec allonge les millions. La facture totale pour les 459 sites abandonnés pourrait atteindre 1,2 milliard. Congrès de l'ACFAS, les filles du roi et leurs millions de descendants. Une bonne affaire, les centres de conditionnement physique. Mobilité durable, pas de mesures pour freiner l'auto solo. Et aujourd'hui, culture, cinéma, quoi de neuf, docteur? Actualité, les poissons, une chronique de Jean-François Nadeau et Le Monde, hypocrisie nucléaire, une chronique de François Brousseau. Le gouvernement Couillard compte dépenser près de 90 millions de dollars cette année dans la restauration des sites miniers abandonnés au Québec. Il s'agit d'un montant 7 fois plus élevé que la moyenne de la dernière décennie. Mais le budget nécessaire pour venir à bout de cet héritage toxique devra encore être bonifié substantiellement au cours des prochaines années pour espérer respecter les objectifs du gouvernement. Selon les données transmises au Devoir par le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'État québécois injectera 88,9 millions de dollars dans la restauration des sites miniers, dont il a la charge au cours de l'année financière 2018-2019. S'il se concrétise, ce montant représente une croissance très importante des dépenses par rapport à l'année 2017-2018. Et toujours à la une du Devoir, Costa Rica, rockeur, romancier et président. On a une photo sous laquelle on lit Carlos Alvarado, président millénial. Point d'interrogation, s'interroge donc le quotidien El Financiero en une du populaire magazine Perfil, sa conjointe Claudia Dobbles. Une couverture médiatique qui mise sur leur fraîcheur et qui rappelle celle du couple Trudeau-Grégoire. C'est donc un article signé Sarah R. Champagne et Michel Huneau. Le Costa Rica est l'une des démocraties les plus consolidées de toute l'Amérique latine, sa population de moins de 5 millions d'habitants parmi les plus alphabétisés du monde. Le pays n'a pas d'armée et le quart de son territoire naturel est protégé. Et le gouvernement comporte maintenant une majorité de femmes ministres. Alors que le Québec voit se profiler une campagne électorale polarisante, y a-t-il des leçons à tirer? Donc, une rencontre avec Carlos Alvarado à quelques jours de sa cérémonie d'intronisation. Les jeux sont faits. Vincent Marissal lançait dimanche après-midi sa campagne d'investiture pour Québec solidaire dans la circonscription montréalaise de Rosemont. Il s'agit d'une formalité avant qu'il soit désigné candidat officiel. La période des mises en candidature est terminée et personne ne brigue les mêmes couleurs. Les jeux sont faits. Ils le seront aussi ce matin dans Mercier, où une candidate de la relève qui cherchera à remplacer Amir Kadir sera présentée officiellement ce lundi matin. Je vous en ai parlé il y a quelques minutes. Le premier élu de la formation de gauche en 2007 a annoncé vendredi qu'il ne briguerait pas un quatrième mandat. M. Marissal, ancien chroniqueur politique de la presse, a profité de son propre lancement pour redire ses convictions tout en soulignant les luttes menées par son parti. « Je ne me suis pas levé un matin en me disant que ce serait le fun d'aller me battre contre Jean-François Lisée dans Rosemont. Je le répète, Jean-François Lisée, je le respecte. Je connais ses capacités et ses limites. Il se trouve que c'est mon député depuis des années et moi, la dérive identitaire du PQ, ça ne m'a pas plu beaucoup. » Il a réitéré cette opinion devant ses partisans en accusant M. Lisée de manipuler les manettes de la division à des fins électoralistes. Cette attaque lui a valu une des plus fortes ovations et pourrait bien annoncer un des thèmes forts de la prochaine bataille titanesque qui se prépare dans Rosemont. La candidature de Vincent Marissal deviendra officielle le 31 mai. Les Jeux se feront. Le complexe abbatial cistercien de Notre-Dame-du-Lac à Oka passe aux mains de promoteurs privés. Les nouveaux propriétaires promettent de rendre à l'abbaye fondée au 19e siècle sa gloire architecturale, de préserver et d'enrichir son patrimoine agricole et d'y développer un centre récréo-touristique de classe internationale. La transaction immobilière de 5,5 millions de dollars a été conclue vendredi. Après un an de négociations entre la corporation de l'abbaye d'Oka, propriétaire du lieu depuis une décennie, la firme Trident, spécialisée en investissement immobilier, et Groupe Connexion, qui allie des compagnies de transport et de production agricole. Le design exceptionnel du complexe sportif de Saint-Laurent, de la Maison de la littérature du Québec, du pavillon pour la paix du Musée des beaux-arts de Montréal et du stade de soccer de Montréal a valu à ces quatre bâtiments québécois d'être décorés d'une médaille du gouverneur général en architecture. Au total, 12 bâtiments canadiens se verront primés ce lundi par l'Institut royal d'architecture du Canada et le Conseil des arts du Canada. Une cérémonie de remise de prix aura lieu à l'automne à Ottawa. Les autres lauréats sont le Musée d'art Odin en Colombie-Britannique, le pavillon du parc Borden en Alberta, la maison Casey en Ontario, l'aéroport international de Fort McMurray, Alberta, le centre d'accueil des visiteurs du Fort York en Ontario, la résidence Parallélogramme au Manitoba, le chalet de la Gorge du Piège à Lapin en Nouvelle-Écosse et la maison Haut de Coq en Nouvelle-Écosse. « La caricature dans le Devoir d'aujourd'hui, alors on peut lire le fédéralisme ensoleillé et une lettre et un drapeau. Alors, cher Philippe, voici le nouveau drapeau du Québec que j'ai décrété pour que tout soit clair. Quatre plans, c'est quatre plans. Merci. Signé Justin. PS, si c'est des choses que tu n'agrées pas avec, va voir la Cour suprême. Alors, voilà pour la caricature et on voit évidemment le drapeau du Québec, mais transformé. Les feuilles de potes remplacent les fleurs de lys. Le Liban a tenu dimanche ses premières élections législatives en près d'une décennie, un scrutin qui a peu mobilisé et ne devrait pas bouleverser la répartition du pouvoir entre les principaux partis en place. Les bureaux de vote ont fermé à 19 heures, heure locale, et sur les 3,7 millions d'électeurs, seuls 49,2% ont déposé leur bulletin dans l'urne, contre 54% en 2009, a indiqué dans la soirée le ministre de l'Intérieur, Nouad Machnouk. Cette faible mobilisation a été enregistrée alors qu'une nouvelle loi électorale basée sur la proportionnelle a été adoptée l'an dernier et que près de 800 000 nouveaux électeurs étaient éligibles au vote. La candidate choisie par le président Donald Trump pour diriger la CIA ou la CIA a offert de renoncer à ce poste par crainte qu'un programme d'interrogatoire n'entache sa réputation et celle de l'agence de renseignement américaine. Deux hauts responsables de l'administration ont, sous le couvert de l'anonymat, confirmé cette nouvelle, d'abord rapportée par le Washington Post. Vendredi, en vue de l'audience de confirmation de Gina Haspel, des représentants de la Maison-Blanche avaient cherché à obtenir plus de détails sur son implication dans le programme d'interrogatoire brutaux auquel étaient auparavant soumis des suspects de terrorisme dans la foulée des attentats du 11 septembre 2001.
Thank you.
La formation Mountain Daisies qui nous offre une première pièce sous l'appellation uniquement de Mountain Daisies. Mountain Daisies qui ont fait un album de collaboration avec plusieurs autres chanteurs et chanteuses. Ainsi, ils ont également, oui, pris part à la formation 7 jours en mai. C'était donc Ariane Ouellette et Carl Prévost sous le nom Mountain Daisies.
À la une du Journal de Montréal, les jeunes de Mégantic hantés par des idées noires. 8 groupes d'investisseurs ont misé gros, les millionnaires du REM ou du REM. Et Yama, la voix du Québec, la consécration. Alors, pour ceux et celles qui ne la connaissent pas, elle s'appelle Yama Laurent. Autre test pour l'UPAC et la Couronne, le nouveau procès de Curceau doit débuter aujourd'hui. L'unité permanente anticorruption et la Couronne subiront un autre test important à partir d'aujourd'hui, alors que le deuxième procès de l'entrepreneur en construction Tonnière Curceau doit débuter à Laval. À Curceau est accusé d'avoir participé à un vaste stratagème de corruption dirigé notamment par l'ex-maire Gilles Vaillancourt. Son premier procès dans cette affaire a avorté à la toute fin et de façon inattendue l'automne dernier. Depuis, 2 autres procès hautement médiatisés pour corruption dans des dossiers différents se sont soldés par des acquittements. D'abord, le 6 février dernier, ce même Tony Curceau a été blanchi du soupçon qui pesait contre lui à Mascouche. Puis la semaine dernière, 6 co-accusés dans le scandale du faubourg Contrecœur à Montréal ont été acquittés. Les jeunes de Lac-Mégantic sont 2 fois plus nombreux à avoir des idées noires et à se mutiler que la moyenne québécoise depuis la tragédie ferroviaire qui a fait 47 morts et détruit le cœur de leur ville il y a près de 5 ans. Le Journal de Montréal a consulté une vaste étude réalisée par des chercheurs de l'Université de Sherbrooke et de l'Université du Québec à Chicoutimi qui sera présentée au Congrès de l'Association francophone pour le savoir, l'ACFAS, cette semaine. Les résultats dépeignent un portrait sombre de l'ensemble des citoyens exposés au déraillement meurtrier du 6 juillet 2013 et incluent pour une rare fois l'état d'esprit des jeunes de moins de 25 ans. Ainsi, 39 % des adolescents qui ont été exposés à la tragédie ont eu des pensées suicidaires au cours de la dernière année. Ce qui nous inquiète, c'est que ces idées noires sont plus fréquentes et supérieures à ce que l'on peut retrouver dans une population qui n'est pas exposé à une catastrophe, indique la chercheuse Danielle Maltais. C'est à la fois normal et inquiétant à la suite d'une catastrophe, dit-elle. Il faut tout de même intervenir. C'est chez les jeunes hommes de 18 à 25 ans que ça semble être plus difficile, dit Danielle Maltais. 64 % d'entre eux ont une faible estime personnelle. Sur le plan psychologique, c'est complexe, souligne-t-elle. Du positif, malgré tout. Meilleure appréciation de la vie. Changement spirituel et meilleure relation interpersonnelle, la tragédie de Lac-Mégantic aura aussi apporté du positif dans la vie de certains survivants. Des gens qui ont été exposés à la catastrophe considèrent avoir grandi, relate la chercheuse Danielle Maltais. Ils ont changé leurs valeurs, ils se sont trouvés de nouvelles forces personnelles, ils sont moins matérialistes. Des frais d'Evenco visés par une action collective. Je trouve ça ridicule, c'est un système automatique qui envoie les billets. Je suis conscient que ce système leur a coûté de l'argent, mais c'est abusé, soutient Sajib Sabré, qui a récemment été choqué des frais imposés par Evenco en voulant acheter des billets pour un combat de lutte. L'action vise donc les frais exigés lors de l'envoi d'un billet par courriel qui serait de 5,75 $ par commande. La requête déposée à la Cour récemment concerne aussi les frais de 5,75 $ à 7,50 $ par commande pour le ramassage à la billetterie dans les cas où la commande a été faite trop près le jour du spectacle. Les frais de 5 à 7 $ pour l'option ticketless, carte, de, crédit requis à l'entrée, prévu pour certains événements, ainsi que le montant de 5 $ pour des billets mobiles disponibles via l'application des Canadiens pour les matchs du tricolore. Le recours ne vise pas les billets envoyés par la poste. Selon l'avocat du recours, Evenco serait le seul à facturer de tels frais pour la livraison électronique, alors que des concurrents comme Ticketmaster ou la Place des Arts envoient gratuitement les billets électroniques. Evenco a mentionné au journal que l'ajout de frais pour le service de billetterie est pratique courante dans l'industrie du divertissement, autant au Québec, au Canada qu'en Amérique. Un CHSLD est sommé d'embaucher du personnel. Pour la première fois, le tribunal d'arbitrage vient d'ordonner à un CHSLD de Montréal d'embaucher l'équivalent de 10 infirmières et préposés à temps plein pour offrir des soins adéquats aux résidents. Alors, il y a une photo, un arbitre ordonne donc au CHSLD Denis Benjamin Vigé à l'Île-Bizarre d'embaucher une dizaine d'employés. Le personnel même en rognant à l'occasion sur ses pauses, ses heures de repas et en demeurant en poste au-delà de son horaire, n'arrivait pas à distribuer les médicaments, à nourrir correctement les résidents et n'était pas en mesure de changer leur culotte d'incontinence souillée, a dit l'arbitre Richard Bertrand. Il donne 1 000 000 à un refuge pour femmes. Tout cela a été rendu possible grâce au flair du comptable Harold Merton, qui travaille pour le donateur Andrew Harper, 95 ans, mais aussi pour la directrice générale du refuge chez Doris, Marina Boulos-Winton, qui accueille 1600 itinérantes l'an dernier, qui a accueilli 1600 itinérantes l'an dernier et qui a failli fermer ses portes en 2014. Soucieux des problèmes financiers de l'organisme, Harold Merton a suggéré à Mme Boulos-Winton de présenter une proposition de financement de 10 000 $ à son client. Andrew Harper, intéressé par les missions du refuge, était finalement prêt à lui offrir plus. On s'est rencontrés dans son salon et il m'a posé des questions. Il m'a dit « Combien tu veux? » J'ai dit « 1,25 million ». Il a dit « Je te donne 1 million ». J'ai dit « Ok, je te le prends », a lancé en rigolant Marina Boulos-Winton, qu'il a ensuite rencontré de nouveau pour s'assurer que tout cela était véritable. C'est un homme discret, son père lui a appris à donner au moins fortuné. Il poursuit ce que son père lui a enseigné, a souligné son comptable. Le nombre de journées où la qualité de l'air est considérée comme mauvaise s'est légèrement accru en 2017 sur le territoire de l'île de Montréal par rapport à 2016, montre le rapport du service de l'environnement de la ville. Au total, la qualité de l'air a été mauvaise lors de 34 journées l'an dernier, incluant 16 jours de smog. En comparaison, la qualité de l'air avait été mauvaise 29 fois en 2016, mais ce nombre inclut 8 jours de smog. Le réseau de surveillance de la qualité de l'air a noté dans son rapport qu'aucune journée de mauvaise qualité de l'air ne s'est produite l'été dernier et que la majorité est survenue au cœur de l'hiver. La ville a imputé ce problème au chauffage au bois, source importante de pollution en hiver. Le légendaire Plaza Hotel de New York va être acheté pour 600 millions de dollars, a indiqué à l'AFP, l'agence France-Presse, un des acheteurs basé à Dubaï. Situé sur la 5e avenue, le Plaza Hotel, qui existe depuis plus de 100 ans, apparaît dans plus de 30 films hollywoodiens. Charles Kahn, dont la société White City Ventures a son siège à Dubaï, a expliqué s'être associé à l'investisseur Kamran Hakim, basé à New York, pour racheter l'établissement. La transaction doit être finalisée le 25 juin. Le Plaza, qui a appartenu un temps au président américain Donald Trump, est actuellement géré par le groupe français Accor.
À Santa Fe, je t'ai trompé. À Singapour, c'était ton tour. À Saint-Tropez, pour un PD marié. Le jour d'avant, pour son amant. À San Pedro, à Macho, Mazo. À Sosua, sous la véranda. À Hollywood, Hollywood. Mon amour, je n'aimerai toujours que toi.
À Montpellier, je t'ai trompé. À Saint-Maurice, geisha. À l'île des sorts, pour un pêcheur, c'est comme ça. À La Havane, une gitane, oh boy. À Conchon Bay, pour un leitcha. À Hollywood,
la très très forte sympathique formation Anne Victor avec la encore plus sympathique pièce Hollywood. C'est un extrait de l'album Cinépark paru en 1998.
Les journaux régionaux, je vais vous lire la chronique de Mylène Moisan qui est dans la presse aujourd'hui aussi, cette fois dans Le Soleil, alors à l'origine, puisque c'est une journaliste qui travaille au Soleil. Les lettres qui dansent, Samuel Lagrange joue au hockey dans les Pee-wee, il est gardien, il s'est toujours bien débrouillé, encore plus depuis qu'il voit la rondelle. Avec ses nouvelles lunettes, presque magiques, il a un trouble de perception de la lumière qui fait que tout ce qu'il regarde bouge sans arrêt. Bouge sans arrêt, comme un tournis permanent. Avant, quand il était devant le filet, il arrivait à arrêter la rondelle en observant les mouvements des joueurs. Il devinait où elle se trouvait, anticipait les tirs au but. Ça marchait. C'était plus compliqué à l'école. En troisième année, il n'arrivait toujours pas à lire, même s'il travaillait d'arrache-pied malgré l'aide de spécialistes. Ils ont même essayé la médication. Rien à faire, Samuel n'arrivait pas à lire une seule ligne, pas plus à écrire un mot. Ses parents l'ont fait évaluer. Trois diagnostics sont tombés. Dyslexie, dysorthographie et dysgraphie. Un jour, Samuel devait avoir 10 ans. Edith a demandé à son fils d'écrire des numéros de téléphone dans un carnet. Pour la première fois, il a perdu patience. « Tu ne comprends pas. Les lignes bougent. Je déteste écrire sur des lignes. » « Quoi? » Non seulement il avait l'impression que les lignes bougeaient, mais les feuilles aussi et les lettres dessus. Parfois en vagues, parfois en tourbillon, comme si elles jouaient à saute-mouton. Un peu comme regarder dans des jumelles en mouvement avec le focus qui change sans arrêt. Samuel était si fatigué qu'il dormait plus de 12 heures par nuit. Edith a fait des recherches. Elle a entendu parler du syndrome d'Irlène, un problème de perception de la lumière qui détraque la vision. Sauf que le Québec ne reconnaît pas encore ce syndrome. Il a fallu aller aux États-Unis pour avoir le diagnostic. À leurs frais, évidemment. Et le pire, c'est que la solution est toute simple. Des lunettes teintées adaptées à chaque personne selon la perception de la lumière. Samuel a essayé 3 combinaisons de couleurs, avant de tomber sur la bonne avec du rose et du bleu dedans. Il les a reçues en mars. Quand il les a mises, il a dit « C'est comme ça que vous voyez? C'est donc ben calme! » Il pensait que tout le monde voyait comme lui. Il est sorti dehors, les arbres ne bougeaient pas. Même chose pour les lignes, les feuilles, les lettres et les chiffres. Même s'il a encore du retard à rattraper, Samuel progresse à pas de géant depuis. Il est capable de lire des phrases, d'en retenir le sens et d'écrire. Il a des trucs. Les sons et les lettres sont associés à des images. Mais contrairement à avant, ça fonctionne. J'ai rencontré Samuel à son école, l'externat Saint-Jean-Berkman, avec sa mère et Geneviève, une éducatrice spécialisée. Samuel a 11 ans. Il est en 5e année et pour la première fois de sa vie, il sent que ses efforts portent leurs fruits. Devant le filet aussi. À la fin de sa saison de hockey, on lui a remis un prix spécial pour le joueur le plus inspirant de l'équipe. Il est toujours de bonne humeur. Samuel vient de terminer une bande dessinée, un projet qu'il avait commencé il y a longtemps. Il s'y est remis sérieusement en juillet avec l'aide de maman et avec papa pour les dessins. C'est l'histoire, tiens donc, d'un gardien de but. Ça s'appelle « Go, ladies », D-Y-S, pour les diagnostics qui commencent en 10 ou en 10. La morale est simple. Quand on veut, on peut. J'ai d'abord écrit à la main, puis à l'ordinateur avec les outils technologiques dont je me sers. Avec ça, ceux qui lisent le livre peuvent comprendre ce que j'écris. Il a laissé les textes manuscrits pour montrer la différence. C'est fascinant. Tant qu'à avoir fait tout ce travail, Samuel a décidé de publier sa bande dessinée, de la vendre et de donner les profits pour aider d'autres élèves qui ont des difficultés à l'école. Sa façon à lui de donner au suivant. Si on peut en sauver un. Les 300 premières copies se sont envolées. Il a passé une nouvelle commande. Mon objectif est d'en vendre 800. Il a dédicacé son livre à mes gars. Chaque lettre est à sa place, grâce à ses lunettes, grâce à sa persévérance surtout. Un élève est entré pendant que j'étais là. Il a demandé à Samuel « C'est toi qui as écrit le livre, avec des yeux grands comme ça? » Samuel a répondu oui, tout gêné mais content. Ils se sont fait une tape dans la mitte. À l'école, Samuel est devenu un exemple, un modèle pour les 10 DYS de ce monde et tous les autres qui partent avec une ou deux prises. Edith est fière de son garçon. Il donne un message d'espoir. Il écrira peut-être une autre histoire avec sa petite sœur Marika. Elle pourrait m'aider et moi aussi je pourrais l'aider. Au hockey, il rêve d'être dans les 2 lettres. Un autre but qu'il ne laissera pas passer, maintenant qu'il peut suivre la rondelle des yeux. Dans la tribune, Judith Demeul, Arrimage Estrie, tient une friperie à sa manière. Même lorsqu'il s'agit d'ouvrir une friperie d'un jour, Arrimage Estrie voit les choses autrement. C'est trompeur de choisir ses vêtements par la grandeur. Ça nous limite, estime Maïté Dumont, membre du conseil d'administration de l'organisme Sherbrookois. Les vêtements de la friperie de la diversité culturelle, organisée dimanche à la capsule Bistro Cinéma pour marquer la journée internationale sans diète, ont donc été classés par type. Il s'agit d'une méthode qui impose de se concentrer sur ce qu'on aime porter plutôt que sur ce qu'on peut porter. Même les morceaux féminins et masculins ont été mélangés. On voulait mettre ça tout ensemble pour ne pas entrer dans les stéréotypes, mentionne Mme Dumont. Chez Arimage Estrie, les intervenantes travaillent principalement sur le développement de l'esprit critique. On développe les facteurs de protection. Comment on fait pour se bâtir une estime de soi? Selon Maïté Dumont, il faut être ouvert à la diversité corporelle et aux différences pour comprendre que les représentations médiatiques ne sont pas nécessairement la réalité. Lors des activités d'arrimage, les membres parlent des causes, ils n'abordent pas les troubles alimentaires tels quels. On utilise souvent l'image de l'iceberg pour où le trouble est seulement la pointe, explique Maïté Dumont. Les rencontres de l'organisme permettent aux membres de travailler sur la confiance en soi et sur l'acceptation de ces différences. Cette acceptation les mènera à combattre le trouble et à l'accepter comme une partie d'eux-mêmes. Avant, je voyais le trouble alimentaire comme une pathologie, quelque chose que je voulais éradiquer, témoigne une jeune femme rencontrée à la friperie qui a préféré garder l'anonymat. Bénévole pour l'activité d'un jour, elle s'est d'abord fait recommander Arrivage par des amis et des psychologues. Son cheminement avec l'organisme lui a fait comprendre que son trouble fait partie d'elle. Arrimage m'a appris à m'accepter avec mes vulnérabilités, partage la femme de 21 ans. Aujourd'hui, elle se considère comme rétablie, mais n'ose toujours monter sur la balance. Elle accepte ses pensées culpabilisantes et apprend à vivre avec ses faiblesses. Dans le droit, une trentaine de personnes, surtout des propriétaires et employés de commerce dans le marché bail, se sont armées de sacs de vidange, de balais et de pinces à déchets dimanche matin afin de nettoyer le quartier qui a littéralement été pris d'assaut par la population au cours du week-end grâce au beau temps. Nous voulons montrer à la ville qu'il y a beaucoup de positifs dans le marché bail, que les marchands aiment le quartier et que nous voulons que tout le monde s'en occupe, a expliqué l'organisateur de l'événement et copropriétaire d'une boutique de vêtements pour hommes. C'était la première fois qu'une opération de nettoyage à grande échelle était organisée par des commerçants du marché bail. Dans le Nouvel East, les inondations printanières ont fait une victime en Mauricie. Le corps d'un homme a été retrouvé dimanche matin dans un secteur inondé de Saint-Alexis-des-Monts. Il s'agit de Pierre Dugas, un homme de 70 ans de Montréal qui possédait un chalet en bordure de la rivière du Loup depuis plus de 25 ans. Vers 6h30 dimanche matin, le corps de l'homme a été découvert dans le secteur du chemin Villeneuve au nord du village de Saint-Alexis-des-Monts. Cet endroit où se trouvent plusieurs chalets est inondé par le débordement de la rivière du Loup depuis quelques jours. Il est impossible de s'y rendre en voiture. Le Montréalais était porté disparu depuis samedi soir. Des recherches pour le retrouver avaient même été entreprises. Pierre Dugas s'était en effet rendu samedi sur son terrain inondé vers 13h à bord d'une embarcation. Il voulait vérifier les conséquences des inondations sur ses abris de bois de construction. Un voisin inquiet de ne pas le voir revenir a contacté le 911 vers 21h20. On l'attendait et on voulait l'inviter à souper. Il était seul car sa conjointe était à Montréal, raconte André Lamontagne, voisin de Pierre Dugas. On voyait qu'il ne revenait pas. Il commençait à faire noir et il n'était toujours pas revenu. On pensait qu'il était peut-être chez des amis qu'il a dans le coin, mais il n'arrivait pas. Après avoir alerté le 911, un policier de la Sûreté du Québec et un pompier ont été envoyés sur place. Ayant une bonne connaissance de l'endroit, André Lamontagne a pris place dans l'embarcation des secours. Des recherches ont été entamées samedi soir, mais l'endroit était très difficile d'accès. Dès l'aube, André Lamontagne n'a pas attendu la reprise des recherches pour retourner sur le terrain. « J'ai pris le canot pour faire le tour du terrain. Plus loin, j'ai vu son embarcation. » Quand je me suis approchée, je l'ai trouvé. Il avait le visage dans l'eau et était mort noyé. Je vous souhaite un agréable lundi 7 mai 2018. J'espère que vous allez bien. Hélène Denis avec vous. Restez là, puisque dans un petit moment, ce sont les actualités culturelles et aussi les sujets libres.
Pervers de ses frontières, je corps et de ma tête, ouvrir mes yeux par l'intérieur, avec mes mains battre ma peur, l'attraper par le collet, la tuer d'un coup de balai. Knockout, je vous mets knockout, tous mes ennemis, je vous anéantis. Knockout, je vous mets knockout, même mes amis partis. Knockout, je vous mets knockout, tous mes ennemis, je vous anéantis. Knockout, je vous mets knockout, je m'en fous, je te veux la vie. Déchirer toutes mes chemises, les sortir de ma remise, m'habiller en rose bonbon et d'une robe sans bouton, lancer les clés par la fenêtre, ouvrir les portes et les loquets, franchir les murs sans me blesser, embrasser l'air, le caresser. Knockout, je vous mets knockout, tous mes ennemis, je vous anéantis. Knockout, je vous mets knockout, même mes amis partis. Knockout, je vous mets knockout, tous mes ennemis, je vous anéantis. Knockout, je vous mets knockout, même mes amis partis. Knockout, je vous mets knockout, même mes amis partis. Knockout, je vous mets knockout, tous mes ennemis, je vous anéantis. Knockout, je vous mets knockout, même mes amis partis.
Catherine Major et de son album Par-dessus bord, c'était la pièce Knockout.
La voix Yama, la diva en ballerine, c'est la chronique d'Hugo Dumas. Pincez là quelqu'un, tel que prévu depuis plusieurs semaines, la timide mais talentueuse Yama Laurent a été couronnée hier soir plus belle voix du Québec avec 60 % du vote populaire. À l'annonce du résultat par Charles Lafortune, la chanteuse de 27 ans née en Haïti, n'a pas bronché et n'a pas versé de larmes comme sonné par la nouvelle. Son discours a été succinct, quasiment chuchoté. Pour elle, cette victoire, c'est comme une adoption par les Québécois. En 6 saisons de La Voix TVA, c'est la première fois qu'une concurrente née à l'extérieur du pays se sauve avec les plus grands honneurs. D'ailleurs, les 4 finalistes d'hier avaient tous des origines diverses, soit arménienne, Myriam, soit dominicaine, Jonathan, soit haïtienne, Yann et Yama. Les 5 autres éditions de La Voix ont toutes été remportées par des artistes dits, entre guillemets, « de souche ». Depuis son impressionnante audition à l'aveugle « Forever Young » de Bob Dylan, Yama, et sa voix basse ont conquis le cœur des téléspectateurs. Son histoire personnelle difficile a également remué ses fans. Survivante du tremblement de terre de 2010, elle a traversé une enfance difficile avec son père, dont elle parle très peu. Elle a plus tard renoué avec sa mère qui habite toujours en Haïti et qui lui a transmis hier un message d'encouragement par vidéo. Encore ici, Yama a encaissé le choc de voir sa maman sans scier. Yama Laurent, qui a entamé des études de médecine à l'Université de Santiago, en République dominicaine, est l'anti-star par excellence. Elle fixe souvent ses ballerines et soutient difficilement le regard du public. Des ballerines, on parle ici de chaussures. Sa timidité extrême pourrait par contre devenir un gros obstacle si elle ne la dompte pas. Le parcours de Yama a été sans faute à la voix, de Let It Be en duel avec Kelly Bado, en passant par Il s'aime de Daniel Lavoie et A Change Is Gonna Come, elle n'a jamais craqué sous la pression. En choisissant Garou comme coach, parce que ses chansons l'ont accompagnée dans des moments de turbulence, Yama lui a offert un premier gain à sa première participation à la Voix québécoise. La chanson que Garou a composée pour sa protégée, Un peu de nous, c'est le titre, renfermait des sonorités rétro intéressantes. Yama l'a bien maîtrisée, souvent sans accompagnement musical, mais n'a pas été aussi touchante et vibrante que d'habitude. Elle a gagné quand même. Télévision, c'était la dernière de Tout le monde en parle hier soir. Richard Therrien intitule sa chronique « Un tramway nommé Régis ». Toujours franc, parfois bourru, mais aussi rieur et lançant des formules efficaces, Régis Labombe a certainement livré un des segments les plus divertissants de cette dernière émission de la saison de Tout le monde en parle hier. L'autre politicien, Andrew Scheer, n'a peut-être pas fait le plein d'électeurs, mais il s'en est tout de même sorti honorablement. « On est rendu là », affirme le maire Labombe à propos du système de transport structurant. Il balaie du revers de la main les accusations de l'opposition d'avoir caché ce projet aux électeurs durant la campagne et rappelle que 70 % des gens ont voté pour le transport structurant. « L'opposition fait ça à l'américaine. Nier l'évidence », tranche-t-il. Au sujet du troisième lien, le maire de Québec a répété qu'il faudrait qu'on lui prouve que c'est bon pour sa ville. À ceux qui trouvent que c'est long de passer d'une rive à l'autre, il a eu ce message « Faudrait qu'il vienne à Montréal. Tout à l'heure, ça m'a pris 2 heures Québec-Montréal, puis 2 heures Montréal-Montréal. On a fait 1,2 million la passée », a rappelé le maire au sujet du centre Vidéotron, plus rentable pour la ville que pour Québécois. « Ça chie pas de partout. On a fait un bon deal », se réjouit le maire, malgré le fait que sa ville n'a toujours pas les Nordiques. « On peut vous vendre les Canadiens, si vous voulez », lui a lancé Danny Turcotte. La meilleure réponse du maire, « On a déjà un club junior, ça va aller ». Malgré la tuerie de la mosquée, il ne veut pas de centre de prévention de la radicalisation à Québec. Pas sûr que c'est efficace. « Faut pas créer quelque chose qui n'existe pas », dit-il au sujet de la radicalisation. À propos des possibles motivations d'Alexandre Bissonnette, l'auteur de la tuerie qui a plaidé coupable, « On fait face à un problème de santé mentale ». Ça fait qu'on ne comprendra jamais ce qui s'est passé dans la tête de ce gars-là, dit-il, appuyé par Denis Arcand. Le cinéaste s'indigne qu'on puisse qualifier les gens de Québec d'anti-musulmans et prévient de ne pas faire de lecture sociologique de quelqu'un qui saute une coche. La présence d'armes a fait la différence. D'ailleurs, M. Labombe ne s'explique pas que Bissonnette ait pu en avoir 3 en sa possession. On doit questionner la disponibilité des armes, croit-il, la carte du fou du roi. Il me semble qu'après tous ces efforts, la moindre des choses serait que vous ayez enfin un tramway nommé Régis. Premier chef conservateur à se présenter sur le plateau de Tout le monde en parle, Andrew Scheer s'en est sorti vivant sans jamais perdre son sourire. Guy Lepage a rappelé d'emblée que M. Scheer avait voté contre l'avortement et le mariage entre personnes de même sexe. Mais le chef a répété qu'il ne rouvrirait pas ces débats s'il était élu. « Je suis concentré sur les enjeux qui nous rassemblent », a dit M. Scheer en tournée de consultation au Québec en vue de sa nouvelle plateforme électorale. Il nie la rumeur voulant qu'il possède une grande collection d'armes. Oui, il chasse le canard parce qu'il vit en Saskatchewan, rien de plus. Il reconnaît avoir déjà fumé du pot. Voudrait-il recriminaliser le cannabis s'il était élu? Il attend de voir les résultats de la loi avant de décider. De la même façon, il n'a pas voulu se prononcer clairement sur une éventuelle taxe Netflix. Maxime Bernier l'a accusé d'avoir enrôlé de faux conservateurs chez les producteurs laitiers pour gagner la course à la direction du parti. « Je peux vous assurer que Maxime ne serait jamais mon ministre de l'Agriculture », a blagué le chef. Danny Turcotte en a profité pour inviter officiellement Andrew Scheer au prochain défilé de la fierté à Montréal en août, ce qui serait aussi une première. L'idée que tout ce qui régit le cinéma se compte en chiffres rend Denis Arcan malade. On parle des films en fonction de leur box-office, pas de leur qualité, déplore le réalisateur. Ça pourrit toute notre vie. C'est la même chose pour les livres, c'est la même chose pour tout. Son nouveau film, La chute de l'Empire américain, illustre que les valeurs économiques ont remplacé les judéo-chrétiennes. « Tu crèves l'écran », a dit Guilla à Marie-Pierre Morin, qui fait ses débuts au cinéma dans le rôle de l'escorte la plus dispendieuse de Montréal. « Cette fille-là, au cinéma, ce serait écœurant », s'est dit Denis Arcan en la voyant pour la première fois en marge d'un tournoi de tennis. Arcan assume son côté « casseux de party » depuis le confort et l'indifférence dans lequel il avait prédit que la souveraineté ne se ferait jamais. « Vaut mieux savoir les malheurs qui s'en viennent plutôt que de rêver », plaide-t-il. Le cinéaste n'a pas vu l'adaptation théâtrale du déclin de l'Empire américain parce qu'il craignait de ne pas aimer ça et de devoir s'expliquer. Aucune once d'arrogance chez la boxeuse Marie-Ève Dicker qui a remporté sa ceinture de la North American Boxing Federation, NABF, au terme du combat le plus difficile de sa carrière et le plus sanglant. Sa mère venait d'apprendre qu'elle souffrait d'un cancer peu de temps avant son combat. Une mauvaise nouvelle qui l'a stimulée à se battre pour elle. Sa mère a recouvré la santé depuis. C'est parce qu'elle était fan des Tortues Ninja qu'elle s'est d'abord intéressée au karaté. La discipline n'étant pas inscrite aux Jeux olympiques, elle a changé pour la boxe dans l'espoir de s'y rendre. Une blessure l'en a empêchée et elle a plutôt fait le saut chez les professionnels avec le succès qu'on connaît. La famille Molson, ça va pas vendre, il n'y a pas assez de sexe, a dit Eric Molson à sa belle-fille Hélène Antoniou, qui signe la biographie « Le retour à la bière et au hockey ». L'histoire d'Eric Molson. La femme d'Andrew Molson a eu l'idée de lancer cette bio pour distraire son beau-père et démontrer qu'on peut réussir tout en restant intègre. Télévision, Marie-Pierre Morin a redescendu l'escalier vêtue d'une nouvelle robe pour accompagner son co-animateur du 33e gala artiste, Jean-Philippe Dion. Celui-ci compte sur la première pour défaire un peu son image d'animateur parfait. « Ma relation avec le public n'a pas été simple », affirme l'ancienne « bitch » entre guillemets d'Occupation double, aujourd'hui deux fois nommé au prochain gala. « On va battre Bobino », s'est exclamé Danny Turcotte pour souligner la longévité de « Tout le monde en parle ». La grand-messe sera de retour pour une 15e saison le 23 septembre sur Ici Radio-Canada Télé.
Delilah, what's it like in New York City? I'm 1,000 miles away, but girl, tonight you look so pretty. Yes, you do. Times Square can't shine as bright as you. I swear it's true. Hey there, Delilah, don't you worry about the distance. I'm right there if you get lonely. Give this song another listen. Close your eyes. Listen to my voice, it's my disguise. I'm by your side. Oh, it's what you do to me. 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 What you do to me. Hey there, Delilah, I know times are getting hard, but just believe me, girl, someday I'll pay the bills with this guitar. We'll have it good. We'll have the life we knew we would. My word is good. Hey there, Delilah, I've got so much left to say. If every simple song I wrote to you would take your breath away, I'd write it all. Even more in love with me, you'd fall. We'd have it all. Oh, it's what you do to me. 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 1,000 miles seems pretty far, but they've got planes and trains and cars. I'd walk to you if I had no other way. A friend
friends would all make fun of us, and we'll just laugh along because we know that none of them have felt this way. So Lala, I can promise you that by the time we get through, the world will never ever be the same. Delilah, you be good and don't you miss me. Two more years and you'll be done with school, and I'll be making history like I do. You know it's all because of you. We can do whatever we want to. Hey there, Delilah, here's to you. This one's for you.
Formation américaine Plain White Tees et la pièce Hey There Delilah.
Sujet libre, épuisé de devoir se battre pour recevoir des soins, tétraplégique après une chute, elle demande à être traitée comme un être humain. Une femme de Saint-Augustin devenue tétraplégique après un accident d'équitation est épuisée de devoir se battre continuellement pour obtenir des services à domicile. Elle lance un cri du cœur pour rappeler au système qu'elle est une personne humaine et non qu'un numéro de dossier, c'est dans le Journal de Montréal, sous la plume de Pierre-Paul Biron. Sophie Laflamme a peut-être perdu l'usage de ses membres après une chute à cheval en 2012, mais elle n'a rien perdu de sa fougue et de sa vivacité. « Je suis pas mal certaine que j'ai encore toute ma tête », lance-t-elle avant de laisser échapper un éclat de rire. Ces petits moments de légèreté sont toutefois rares dans le quotidien de la femme de 43 ans qui vit dans un appartement adapté installé au sous-sol de la maison familiale. Devant lutter depuis son accident pour ne pas être oubliée par le système, Sophie Laflamme n'en peut plus de la pression qui s'accentue sans cesse. Même si elle embauche ses propres préposés pour la majorité de ses besoins, la femme doit parfois se tourner vers le CIUS, Capital National, pour des besoins périodiques, ce qui s'est compliqué récemment. Un message sur fond de menace laissé sur sa boîte vocale la semaine dernière aura été la goutte qui fait déborder le vase. Le CLSC m'annonçait à 15h30 qu'il coupait tous mes services à partir du lendemain, jusqu'à ce que j'aie un lève-personne. Selon eux, même si ça fait 6 ans qu'on fonctionne sans, je mettais maintenant les préposés en danger. Soupire Mme Laflamme, qui assure n'avoir jamais été avisée par le passé de la moindre blessure subie par un de ses aides-soignants. Même si la direction est revenue sur sa décision en soirée et qu'elle a reçu ses soins le lendemain, c'est avant tout les impacts psychologiques de ce continuel yo-yo administratif qu'elle veut dénoncer. Je fais quoi, moi, demain matin, si personne ne vient me lever? J'ai l'impression que si ça dépendait seulement d'eux, je serais couchée 24 heures sur 24 ou je serais placée en résidence, déplore la femme qui a choisi de dénoncer malgré la peur des représailles. Depuis peu, elle précise que le CIUS ou le CIU3S a augmenté sans raison la pression sur sa famille. Inspection de sa douche adaptée, demande de fournir des couvre-chaussures aux préposés, diminution au minimum du nombre de transferts, restrictions vestimentaires. Sophie Laflamme se sent de plus en plus étouffée par un système lui-même à bout de souffle. Une préposée m'a déjà dit que c'était trop difficile de m'enlever mes jeans. Donc, on m'a demandé d'être en pyjama pour mes soins, ce qui veut dire passer mes journées en pyjama. Mais je n'ai plus rien, moi. J'ai tout perdu, sauf ces petites choses-là, comme le fait de pouvoir encore m'habiller comme je veux. Et on veut me l'enlever. C'est ça qui n'est pas humain, s'indigne-t-elle, décidée à défendre sa dignité. La direction du CIU 3S Capitale Nationale assure qu'un suivi serré est fait de ce dossier, mais que les décisions prises le sont pour la sécurité des employés. C'est une obligation pour l'employeur que nous sommes, explique la porte-parole Annie Ouellet. Comme si ce n'était pas assez, le père de Sophie Laflamme est en fin de vie à la maison Michel Sarrazin. La mère de Sophie, qui court entre les besoins de sa fille et ceux de son mari, est également à bout de souffle. Est-ce qu'on peut nous laisser vivre ce deuil sans rien changer? C'est tout ce qu'on demande. Ce n'est pas le moment, implore Nicole Laflamme. Je suis épuisée de me battre pour ça parce que j'ai à me battre pour beaucoup d'autres choses dans ma vie, ajoute Sophie Laflamme, qui ne demande qu'à être considérée avec respect. Je me sens comme un fardeau, une complication pour eux, un paquet de troubles. Ce n'est pas normal. Déclarant être au fait des éléments particuliers du dossier, la direction du CIU 3S indique que des rencontres sont prévues avec la famille pour assurer la communication. Déjà largement affligée par son handicap, Sophie Laflamme doit gérer l'embauche des préposés aux bénéficiaires privés qui l'accompagnent au quotidien. Un cauchemar dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre. Le CIU 3S a lui-même de la difficulté à recruter avec un salaire et des conditions avantageuses. Imaginez, moi, ce que je dois faire pour en trouver, lance la femme, installée dans son fauteuil roulant. Durant l'année scolaire, elle réussit habituellement à trouver des étudiants qui sont prêts à faire quelques heures à gauche et à droite pour l'aider. Mais quand la fin des classes arrive, les bris de service sont plus nombreux et causent de sérieux maux de tête à Sophie Laflamme et son entourage. Les filles sont en stage, elles se trouvent des emplois, retournent dans leur région, c'est normal, mais c'est difficile pour nous. Et on ne se sent pas supporté, explique-t-elle. Devant se tourner vers le CIUS 3S, ou le CIUS, point, pour combler ses trous à l'horaire, Mme Laflamme affirme qu'on l'a fait sentir coupable de ne pas parvenir à trouver des employés. « Quand j'ai dit qu'on avait de la difficulté à recruter, ils m'ont dit qu'il faudrait que je me penche là-dessus », se rappelle Mme Laflamme, excédée par cette réponse. « C'est toujours à nous à faire les concessions. Jusqu'à récemment, les bris de service étaient rares parce que j'avais une bonne banque de filles. Mais là, on nous blâme d'avoir des bris de service. On gère quasiment une mini-PME. Mais ce n'est pas encore correct », soupire la femme qui ne sait plus vers qui se tourner tellement il est difficile d'avoir des services. L'histoire de Sophie Laflamme, en quatre lignes, une chute à cheval l'a rendue tétraplégique. Accident survenu le 11 avril 2012, moelle épinière endommagée, elle a perdu l'usage de ses bras et de ses jambes. Les filles du roi et leurs millions de descendants, c'est Isabelle Porter dans Le Devoir qui signe cet article. La contribution des filles du roi au pool génétique des Québécois s'élève à 9 % selon une recherche qui sera présentée cette semaine au congrès de l'ACFAS à Saguenay. Et parmi ces filles du roi, celle qui a le plus de descendants n'a eu aucun enfant en Nouvelle-France. Veuve, Anne Lemaître a quitté Rouen pour la Nouvelle-France avec son fils, Nicolas Roy, et ses deux petites filles. Et ses deux petits-fils, dis-je bien. Une fois débarquée, elle n'a pas eu d'autres enfants, mais les chercheurs lui ont trouvé plus d'un million de descendants. Son impressionnante descendance est due à un seul enfant, contrairement à d'autres femmes qui ont pu avoir une dizaine d'enfants et dont les lignées se sont éteintes. Note Sophie Desportes, qui a étudié le sujet dans le cadre de sa maîtrise à l'Université du Québec à Chicoutimi. La jeune femme fait partie de l'équipe de recherche du fichier Balzac, une immense banque de données démographiques créée dans les années 70, par le sociologue Gérard Bouchard. Grâce à Balzac, les Québécois sont l'une des populations les mieux caractérisées à l'échelle mondiale, note le directeur du projet, Simon Girard. Depuis 45 ans, on y a compilé pas moins de 3 millions d'actes de mariage de toutes les paroisses du Québec. On a des gens qui prennent des photos des registres paroissiaux. Ils lisent les pattes de mouche des curés, retranscrivent chacun des actes de mariage à l'informatique, puis ceux-ci sont intégrés à une plus grande base de données. Aujourd'hui, on a pratiquement 90 % des mariages qui ont eu lieu sur le territoire québécois dans une paroisse catholique. Ainsi, pour faire sa recherche sur les filles du roi, Sophie Desportes a utilisé une banque de données de 60 000 généalogies du 20e siècle, en la croisant avec les lignées de 727 filles du roi. On a pris un corpus généalogique contemporain qui est composé de l'ensemble des individus qui se sont mariés dans Balzac en 60. À partir de ce corpus généalogique-là, on a pu retracer les ancêtres et identifier les fondateurs immigrants et donc les filles du roi. C'est à partir de ces analyses-là qu'on a pu estimer la contribution génétique totale des filles du roi au pool génétique des Québécois à 9,35. Le pool génétique ou génique renvoie à l'ensemble des gènes portés par les individus d'une population à partir des immigrants de cette population jusqu'à leurs descendants aujourd'hui. La recherche a en outre révélé que certaines filles du roi se démarquent par leur nombre de descendants et le nombre de généalogies auxquelles elles sont rattachées. Une dizaine de femmes sont dans plus de 30 % de nos corpus contemporains, signale Sophie Desportes. C'est toujours impressionnant de se rendre compte qu'un petit groupe de femmes a contribué à une telle proportion. Elles s'appellent Catherine Fièvre, Martine Premier, Louise Gargotin, René Rivière et André Remondière. Des noms de famille qui peuvent sembler colorés, mais seraient devenus aussi communs que Tremblay, Côté, Gagnon si la Nouvelle-France avait décidé de donner aux enfants le nom de leur mère. Si ça avait été le cas, le nom de famille le plus courant aujourd'hui serait Langlois et non Tremblay. Il y aurait en outre davantage de Gargotin que de Bouchard et plus de Riton que de Morin. Au-delà de leur intérêt historique, ces recherches recèlent un intérêt dans le domaine de la génétique et de la santé, note le professeur de biologie et directeur de projet Balzac, Simon Girard. On sait que certaines maladies viennent d'une fille de roi, du roi. Ça nous permet de voir d'où viennent les mutations, qui les a introduites en terre de Nouvelle-France, mieux comprendre la dynamique de dispersion de ces maladies-là. Ça va aussi nous aider à comprendre comment intervenir. Dès lors, les campagnes de dépistage de certaines maladies pourraient être mieux ciblées, poursuit-il. Le colloque sur le fichier Balzac s'étale sur 2 jours et compte plus d'une douzaine de présentations, dont l'une traitera des migrations bretonnes à l'origine de l'effet fondateur de la fibrose kystique au Québec. L'événement se déroule dans le cadre du congrès de l'Association canadienne-française pour l'avancement des sciences, qui a lieu toute la semaine à l'Université du Québec à Chicoutimi. Et voilà, c'est tout pour le quotidien des quotidiens de ce lundi 7 mai. Ici Hélène Denis qui vous dit un grand merci d'avoir été à l'écoute. Je vous souhaite une agréable journée et je vous invite aussi à rester avec nous puisque l'hyperactualité commence dans un petit moment. J'aurai le plaisir d'avoir avec nous Maxime Despomerleau pour une chronique culturelle. Merci Jean-Sébastien Laliberté à la mise en onde et au choix musical.